De retour, je suis en compagnie du docteur, on va dire docteur Philippe Ducharme. Philippe Ducharme, je pense que vous avez un doctorat à l'UQAM.
Ben absolument. Docteur.
Alors, vous êtes docteur. Au Québec, on dit docteur seulement pour les gens qui sont médecins, mais pas mal partout dans le reste du monde, quand quelqu'un a un doctorat, on l'appelle docteur. Alors, M. Voilà. Philippe Ducharme, voilà, vulgarisateur scientifique extraordinaire. Aujourd'hui, Philippe, nous allons parler de diabète surtout.
Absolument. Donc, je veux donc vous parler de certaines nouveautés par rapport à cette maladie-là. Je commencerai d'abord en disant, ben le sucre, hein, le sucre, c'est quand même un élément indispensable là, pour tout organisme être vivant que nous sommes. Quand on s'alimente, bien notre système digestif va agir en quelque sorte comme un robot culinaire. Donc, son rôle, c'est de décomposer la nourriture, la dégrader, puis faire en sorte qu'on puisse l'assimiler le sucre.
Ceux qui ont des enfants à très bas âge savent exactement de quoi il s'agit. On a l'impression que les petits-enfants, là, les poupons, c'est vraiment comme des robots culinaires. Là. Voilà.
Et voilà. Alors, le sucre va finalement se retrouver dans le sang. Et pour certaines personnes, donc les gens qui souffrent de diabète, ben, le problème, c'est au niveau de la régulation de cette quantité de sucre, donc la concentration de sucre. On a des hormones qui nous permettent de faire entrer le sucre du sang dans les cellules, donc c'est l'insuline. Et parfois, ben, on a besoin de faire sortir du sucre des cellules, et pour ça, bien, il y a le glucagon. Okay. Ces deux hormones-là, ça agit dans le fond dans un métabolisme qu'on appelle le métabolisme du sucre. Et c'est pour ça qu'on dit que le diabète, c'est une maladie liée au une maladie métabolique, en fait.
C'est que ces deux vecteurs-là, l'insuline et l'autre, qui s'appelle le...
glucagon.
Parce qu'on entend souvent le mot insuline quand on pense à diabète, ouais. Mais le glucagon, j'avoue que moi, c'est la première fois que je fais sa rencontre. Là.
Bon, ben, là, une nouvelle chose pour vous ce matin.
Voilà.
Donc, ce qui est dommage, évidemment, avec le diabète, c'est que ça a plusieurs autres impacts.
Oui.
Et notamment,
la cécité.
Des quantités trop élevées de sucre dans le sang peuvent amener des dommages au niveau des yeux.
Oui.
Essentiellement, ça va conduire à la destruction de petits vaisseaux sanguins qu'on retrouve sur la rétine, donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Ça va créer des petites hémorragies. Puis ce que ça aura comme conséquence, ben ça va entraîner une perte de vision, une vision floue, des taches. Ça peut même aller jusqu'à la cécité, évidemment, si c'est pas traité.
Exact. Tout à fait. Et de ce côté-là, il y a un peu d'espoir, semble-t-il,
voilà.
qui nous vient de par chez nous, là, du centre de recherche de l'hôpital Rosemont.
Voilà. Donc, un chercheur, en fait, une équipe de recherche dirigée par Mike Sapia, donc un chercheur qui œuvre à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, effectivement, ben, ils ont découvert un rôle insoupçonné d'un type de globule blanc, en particulier. Les globules blancs, ça circule dans le sang, bien entendu. Donc, ce type-là, ce sont des neutrophiles. Donc, les neutrophiles ont pour rôle, eux autres, là, normalement, de piéger, de contrôler les micro-organismes qui se déplacent dans notre système.
Oui. Les globules blancs, c'est ça. C'est eux qui soignent. Ouais. C'est comme notre première ligne de défense contre les maladies.
Exactement. Voilà. Donc, ce qui est quand même surprenant de tout ça, c'est que les globules blancs, les neutrophiles, il semble qu'ils ciblent également les vaisseaux sanguins qui sont endommagés au niveau de la rétine. Donc, l'idée qu'une personne diabétique peut justement présenter des dommages au niveau des vaisseaux sanguins de la rétine. Ces vaisseaux-là, dans le fond, ils envoient comme des petits signaux. Puis ça permet d'attirer des neutrophiles. Puis ce qu'ils vont faire, eux autres, c'est qu'ils vont neutraliser ces vaisseaux-là endommagés. Bref, ils vont faire en sorte de faire un peu de nettoyage et permettre finalement à ce que de nouveaux vaisseaux sanguins puissent être régénérés finalement.
Alors, il y a quelque chose, il y a comme une piste de solution pour la rétinopathie diabétique.
Ça va probablement en apporter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet de mieux comprendre comment on peut, comment les neutrophiles fonctionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement au niveau en lien avec le diabète finalement.
Ben, c'est en sachant comment ça fonctionne, ça aide un peu aussi. Ça donne espoir qu'on puisse trouver des manières de réparer le système. Et une de ces façons-là, ce serait d'utiliser de minuscules particules, ce qu'on appelle la nanotechnologie.
Voilà. Et c'est une nouvelle, je pense, qui va intéresser particulièrement les gens qui souffrent de diabète de type 1. Parce que ces gens-là, en fait, ce qui arrive, c'est que le problème se situe au niveau des cellules qui ne sont plus capables de produire. En fait, les cellules qui produisent de l'insuline sont détruites. sont détruites par le système immunitaire. Il réagit mal, puis il détruit les cellules qui produisent l'insuline. Donc, c'est pour ça que ces gens-là doivent s'injecter de l'insuline.
Régulièrement, parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment eux-mêmes.
Voilà. Il y a aussi une autre alternative qui est de transplanter les cellules qui produisent de l'insuline. Donc, par exemple, des greffes d'îlots de cellules de Langerhans. Ça, c'est le nom qu'on donne à ces cellules-là.
D'accord.
Le problème avec les transplantations, je pense que tout le monde le sait, c'est le risque de rejet.
Le rejet, le corps réagit tout de suite à un élément étranger. Là.
Et voilà. Et c'est pour ça qu'on va donc administrer aux gens des médicaments immunosuppresseurs qui vont justement atténuer ou réduire ce risque de rejet. Mais les immunosuppresseurs, ben, ça vient avec des effets secondaires.
Ben, les immunosuppresseurs, ça ratisse large. Alors, ben, si ça calme un peu le jeu pour éviter que le corps rejette une greffe de cellules productrices d'insuline, la corollaire à ça, c'est qu'on a de la misère à combattre toutes sortes d'autres empoisonnements biologiques, si je peux dire.
Exactement, des infections de tout genre. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a des chercheurs américains de l'Université de Northwestern qui ont eu l'idée de prendre le médicament immunosuppresseur, je ne l'ai pas nommé, mais c'est la rapamycine.
La rapamycine, oui, ça fait... Oui, ça... On se souvient de ce nom-là, oui, la rapamycine, oui.
Rapamycine, exactement. Donc, ils l'ont intégré dans ce qu'on appelle des nanoparticules. Donc, ça, ce que ça peut avoir l'air, là, si je mets une image là-dessus, c'est imaginer des petites bulles de savon. C'est pas fait avec du savon, mais imaginons qu'on voit les petites bulles. Mais ça, ces petites bulles-là, c'est des sphères, en fait. Ça. Elles sont jusqu'à 1000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. Ça fait que c'est
Alors, elles sont invisibles à l'œil nu, ça, c'est clair. Voilà. Mais c'est un peu comme les bulles dans une eau gazeuse, mais encore plus petites.
Bel exemple. Donc, en laboratoire, ils ont utilisé des souris qui sont des modèles pour étudier le diabète. Et ils ont injecté ces nanoparticules-là qui contiennent la rapamycine. Et ce qu'ils ont observé, c'est que le mode, ce que ça déclenche comme réaction, c'est que ça ne va pas aller justement stimuler le système immunitaire de la même manière. Ah. En fait, ça va plutôt s'attaquer à d'autres choses, à d'autres cellules qui ont plus ou moins d'impact à ce moment-là. Mais l'intérêt de ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut donc faire une transplantation qui fonctionne. Sans avoir les effets secondaires qui sont habituellement associés aux médicaments immunosuppresseurs.
Alors, si je comprends bien, la nanoparticule qui est, en fait, contient une microdose de rapamycine.
Ouais.
Et cette microdose de rapamycine va cibler plus particulièrement le site de la greffe.
Ben, c'est-à-dire qu'il va donc évidemment agir au niveau de la greffe, c'est-à-dire pour éviter que le système s'entraîne à la greffe, mais il va le faire avec un mécanisme physiologique différent. C'est ça qui est intéressant.
Ah,
ça, ça fait en sorte que finalement, la souris, dans ce cas-ci, conserve un très bon système immunitaire en général, peut très bien se défendre contre des pathogènes, mais ne subit pas les effets secondaires.
Elle ne rejette pas la greffe.
Non plus, exactement. La greffe est bien implantée, ça fonctionne.
Ça peut avoir toutes sortes d'applications pour d'autres situations de greffe aussi, pas juste...
Probablement.
Ben oui, on peut penser à ça.
Ce qui est certain pour ça, c'est qu'il va falloir le valider chez des tests.
Oui, tout à fait. Les souris, on les remercie beaucoup.
Oui.
C'est important de le souligner, là, parce que c'est quand même des petites bêtes qui sont sacrifiées, si je peux dire, pour l'humanité. Là.
Et on en prend bien soin en laboratoire.
Oui, on est mieux... Voilà. Toujours en parlant de diabète, maintenant, on va parler du diabète de type 2, parce qu'il y a un nouveau médicament là, qui pointe à l'horizon.
Exactement. Donc, un petit rappel, le diabète de type 2, qu'est-ce qui se passe? C'est les cellules qui sont plus capables d'incorporer le sucre. Donc, on parlait tantôt de le sucre doit entrer dans les cellules. Là, le problème, c'est que les cellules ne sont plus capables de l'incorporer. Donc, la quantité de sucre augmente dans le sang. Et ça crée des problèmes. Donc, les gens vont souffrir de...
Le diabète de type 2, ça survient plus souvent à l'âge adulte, quand il y a comme une sorte d'usure du système, si je peux dire.
Oui, c'est ça. Progressivement, les cellules deviennent de plus en plus insensibles à l'insuline, donc l'hormone qui permet d'intégrer le sucre dans les cellules. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Donc, on a ce problème-là. Il existe déjà des médicaments là, pour essayer de contrôler de contrôler les conséquences liées à ça, mais des chercheurs français ont identifié un nouveau médicament.
Oui, des gens de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Et voilà.
Voilà.
Donc, le médicament en question, on le nomme le PAPA. ou tapas, là, dépendamment,
patas,
là, il y a un S.
OK. P-A-T-A-S.
Oui, voilà, exactement. Ce qui est intéressant de ce médicament-là, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le médicament va plutôt agir à la source du problème. C'est-à-dire, quand je parlais tantôt des cellules qui ne sont pas capables d'incorporer le glucose, bien, le médicament va justement essayer de redonner cette capacité-là aux cellules, à certaines cellules, là, les cellules qu'on dit des cellules adipeuses. Ce sont des cellules qui, normalement, vont stocker les graisses.
D'accord.
Mais chez les personnes diabétiques, puis comme tout le monde, en fait, là, les cellules adipeuses vont également intégrer normalement le sucre.
Oui, parce que les gras sont transformés en sucre, tout à fait.
Il y a des réactions là, qui vont se produire entre
oui.
les deux.
Ah.
Mais l'idée qu'il faut retenir, donc, c'est que le tapas agit à la source et
bon.
Permet donc aux cellules de retrouver une capacité d'intégrer le sucre du sang vers l'intérieur de la cellule autrement.
Merci beaucoup, Philippe Ducharme. On a hâte d'entendre d'autres bonnes nouvelles. Vous êtes un chroniqueur de bonnes nouvelles, finalement, parce que vous
bon.
Nous... c'est précieux, ça. On se reparle après la pause dans quelques minutes.